l'après-midi à 16h30. Questions disputées. J'aime autant qu'il y ait des questions disputées jusqu'au bout pour que vous ne partiez pas avec des questions sur l'estomac. C'est mieux. Et puis on fera un dernier cours. Je ne dis pas qu'on résumera, ça ne se résume pas. On va entrer maintenant dans un aspect qui est l'aspect le plus profond que le philosophe peut atteindre. Toute la philosophie est ordonnée à la découverte de ce que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est-à-dire, toute la théologie, toute la philosophie est ordonnée à cette question. Existe-t-il un être premier ? Un être autre que le « je suis ». C'est ça la grande question. Et vous voyez, c'est une question personnelle. C'est là où je crois qu'il faut reprendre tout l'aspect traditionnel des voies d'accès par rapport à l'être premier. On a très mal compris, il me semble, la manière dont saint Thomas posait les cinq voies. Personnellement, ça a été pour moi, les cinq voies, la grande interrogation. Quand j'étais jeune étudiant, entrant en théologie, le bon professeur, un jeune dominicain qui vit encore, ça que je ne le nomme pas, il faisait son cours sur les cinq voies, puisque c'est la question 2, on arrive tout de suite à cette question-là. Et après son cours, patiemment, j'ai écouté la manière dont il développait les cinq voies. Je lui ai dit que je n'y avais rien compris. Il n'y a pas que vous qui ne comprenez rien à la métaphysique. Il faut commencer par rien ne comprendre. Et puis petit à petit, ça devient lumineux. Et je lui ai demandé de m'expliquer. Il a levé les bras au ciel. Je le vois encore, disant, je vous ai donné saint Thomas, je ne peux rien vous donner de mieux. Je lui ai dit, mais il faut le comprendre. Je vous ai dit ce que saint Thomas disait. Je ne peux pas répondre à vos questions. C'est ennuyeux, un professeur qui dit ça. On est devant un mur, surtout en philosophie. Alors je me suis dit, bon, il faut se débrouiller seul. C'est tout le temps un peu comme ça, il faut se débrouiller seul. Et je me suis mis à étudier Aristote. On ne l'enseignait pas aux autres joueurs, puisqu'on faisait de la scolastique. Je me suis mis à Aristote. Je me suis dit, c'est sûrement le philosophe qui doit nous éclairer. Puisque saint Thomas n'a pas fait de philosophie propre. Il a demandé de revenir à Aristote, de le traduire pour lui. Et on l'a traduit pour lui. Et donc, reprendre Aristote. Et c'est en reprenant Aristote qui m'a semblé que Thomas d'Aquin, dans ses cinq voies, avait été très mal compris. C'est net que la somme théologique, le nom l'indique, c'est une œuvre de théologien. Si c'est une œuvre de théologien, c'est une œuvre qui part de la foi. Mais la foi nous dit que notre intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu. La première œuvre du théologien, c'est d'éprouver son instrument. Et l'instrument du théologien, je dis bien l'instrument du théologien, c'est l'intelligence humaine. Donc, le croyant théologien se sert au service de la foi. Est-ce que mon intelligence peut être au service de la foi? Grande question. Est-ce que mon intelligence est capable d'être au service de la foi? Et mon intelligence ne peut être au service de la foi que si elle est capable par elle-même de remonter jusqu'à Dieu. Autrement, elle reste à un niveau horizontal, uniquement au niveau de l'homme. Et donc, la parole de Dieu, que le croyait-on, la parole de Dieu, qui est le moyen par lequel Dieu s'est révélé à moi, demeure une parole divine que mon intelligence de croyant reçoit mais ne comprend pas. Puisque c'est une parole divine. C'est Dieu qui me parle. Regardez l'écriture, hein, c'est le premier moment. Dieu parle à Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous avez l'expérience que Dieu vous parle. Est-ce que vous avez été comme Abraham, tout d'un coup arrêté, hein, à 75 ans au moment où les évêques se reposent, Abraham prend la route. Ah, c'est curieux, ça, c'est très curieux. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Il prend son baluchon, qui était gros, qui était très gros son baluchon, parce qu'il y avait Sarah. Et puis il y avait tout son cheptel, un gros baluchon. Et puis il prend plus ce soit Lot, son parent. Et puis il part sur la route. C'est extraordinaire de voir que le premier moment de la foi, comme ça se réalise à travers une marche. À partir de là, les scouts sont nés. Ils ont pris la route. Ils ont des routiers. Abraham, 75 ans, a pris des petites culottes et il était routier. Et puis il est parti. C'est comme ça que ça commence. Alors vous comprenez que Dieu se sert de la parole humaine. Si Dieu se sert de la parole humaine, cette parole humaine, elle a un sens pour le croyant. Un sens que l'intelligence humaine reçoit. Mais l'intelligence humaine reçoit cette parole en sachant que cette parole transmet un mystère. Et donc la parole de Dieu a une signification mystérieuse qui dépasse complètement la signification habituelle de la parole humaine. La parole humaine a un sens. Mais lorsque Dieu s'en sert, cette parole humaine a un super sens. Je ne dis pas un méta-sens, mais un super sens. Alors, est-ce que l'intelligence humaine est capable, par elle-même, de se dire que ce super sens garde cependant un certain sens humain, ou non? Autrement dit, entre Dieu et nous, y a-t-il un certain lien intelligible, ou n'y a-t-il aucun lien intelligible? On est dans la caverne, comme dit Platon, et on ne peut connaître que les choses humaines. Vous comprenez qu'une théologie scientifique, c'est-à-dire une théologie dans laquelle l'intelligence parole de Dieu ne peut exister que si l'intelligence humaine est capable de remonter jusqu'à Dieu. Non pas de comprendre Dieu, mais de voir que Dieu existe et d'affirmer l'existence de Dieu. Alors voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jugement d'existence, hein, vous le retrouvez, le jugement d'existence du croyant. Le croyant, c'est celui qui a un jugement d'existence sur Dieu. Alors si vous ne savez pas du tout ce que c'est que le jugement d'existence au point de vue humain, vous comprenez que votre foi ne sait pas très bien ce que ça veut dire le jugement d'existence sur Dieu. Le croyant est capable de recevoir le « je suis » de Dieu, dit à Moïse, et de voir qu'entre le « je suis » de Dieu et mon « je suis », quand même un certain lien. Dieu se présente à Abraham en disant « je suis ». C'est quand même très étonnant, ça. Et c'est la première présentation de Dieu. Dieu se présente à Moïse, à Abraham, il parle. À Moïse, il dit « je suis ». Parce que un ami, on n'a pas besoin de dire son nom. Dieu n'a jamais dit son nom à Abraham. On l'a appelé le Dieu d'Abraham. C'est ça, c'est très étonnant. Dieu qui se met relatif à Abraham. Sur sa carte de visite. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Un Dieu qui se met relatif à l'homme, à Moïse, qui est quelqu'un de très bien élevé, qui a reçu toute l'éducation du Pharaon, la première éducation qui existait au monde à ce moment-là, l'éducation la plus parfaite, l'éducation du Pharaon, oui, l'inculturation, hein. Elle est fameuse, là. Il a été élevé auprès du Pharaon. Et Dieu leur donne son nom. Et le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Extraordinaire. Parce que entre Dieu et nous, c'est le « Je suis » qui est le point de contact. Parce qu'il se présente toujours à nous, à chacun d'entre nous, comme je suis celui qui est. Alors certains ont dit, quand Dieu se dit, je suis celui que, et ça a été dit, ça veut dire que Dieu ne veut pas se prononcer. Mais non, parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils pouvaient dire eux aussi, je suis. Quand vous dites je suis, ça ne veut pas dire que vous fuyez. Que vous ne voulez pas vous prononcer. Au contraire, quand vous dites « je suis », vous prononcez de la manière la plus forte qui soit, puisque c'est l'être de votre personne. Mais évidemment, pour ça, il faut être intelligent. Si on reste au niveau de la raison, « je suis » n'est pas une définition. C'est une méta-définition. C'est une super définition. C'est Dieu qui se présente. Je suis. C'est ça qui est extraordinaire. Quand vous dites « je suis », vous vous présentez de la manière la plus forte qui soit. Parce que c'est vous, dans ce cas, de plus intime et de plus profond. Alors, il faut comprendre que le théologien, avant de commencer sa théologie scientifique, fait l'épreuve de son instrument. On doit toujours faire l'épreuve de l'instrument dont on doit se servir. soigner les dents, fait l'épreuve de son instrument, parce qu'il ne vaut mieux pas que ça se casse dans la dent. Son instrument sera mieux. L'aiguille se casserait, vous savez, quand elle est bien enfoncée. Ça n'irait pas du tout. Alors on fait l'épreuve de l'instrument. Un tout bon artiste fait l'épreuve de l'instrument. Et le théologien est l'artiste du Saint-Esprit. Il y a deux grands services. Le service de la maternité divine. Marie, elle est unique. C'est la femme. Et le service du théologien. C'est les deux grands services. L'un, c'est sa vie. L'autre, c'est son intelligence. C'est du reste très beau de faire ce parallélisme parce que c'est les deux grands serviteurs. Le théologien doit être un serviteur de la parole de Dieu, un serviteur de la révélation. Il met toute son intelligence au service de la parole de Dieu pour saisir dans la parole de Dieu tout ce qu'il est capable de saisir, en comprenant que lorsque Dieu se sert de la parole humaine, cette parole humaine a une nouvelle profondeur. Elle conduit au mystère de Dieu. Et elle nous révèle le mystère de Dieu, la présence de Dieu. Je suis. Dites ça au début de l'oraison, hein, quand vous voulez faire oraison. Dans le fond de votre cœur, entendez Dieu qui dit « Je suis ». C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et en toute vérité, dans la foi, vous entendez Dieu qui dit « Je suis ». Et vous avez le droit à ce moment-là de vous dresser en face de Dieu et dire « Merci, je suis ». Et vous aussi. Alors comprenons que saint Thomas, en théologien, fait l'épreuve de l'intelligence. Il ne prouve pas l'existence de Dieu. En tant que théologien, saint Thomas sait que Dieu existe. Mais saint Thomas fait l'épreuve de l'intelligence pour essayer de comprendre ce que l'intelligence humaine est capable de dire à l'égard de cette affirmation « Je suis ». À l'égard de l'exister de Dieu. Est-ce que mon intelligence est capable de saisir l'exister de Dieu? Alors, je vous montre que ce que je dis colle bien au texte de saint Thomas. Il dit ça dans la question 2. Or, tout le monde sait, quand on connaît un tout petit peu saint Thomas, que l'unité, ce n'est pas l'article, c'est la question. Dans la question 2, premier article, l'affirmation « Dieu existe », est-ce que c'est une affirmation évidente? Est-ce que l'exister de Dieu est évident pour toute intelligence humaine? Saint Thomas répond, non. Parce que la signification de Dieu, il faudrait la connaître. Or, je ne connais pas spontanément, immédiatement, la signification de Dieu. Donc l'affirmation « Dieu existe » n'est pas évidente. C'est très très important, voyez. Si l'affirmation de Dieu, « Dieu existe » était évidente pour l'intelligence humaine, vous devriez dire que tous ceux qui se disent athées sont des imbéciles. Parce qu'ils refusent une affirmation évidente. Alors vous ne pouvez pas dire ça. L'affirmation « Dieu existe » n'est pas évidente pour l'intelligence humaine. Ouais, c'est grand de commencer comme ça, hein. Le respect à l'égard de notre pauvreté intellectuelle. Et Donc, quand Dieu, quand quelqu'un dit je ne vois pas ce que Dieu exige, je ne vois pas. Et respectez ça. Parce que c'est pas évident. Deuxième affirmation, article 2. Est-ce que la proposition Dieu existe, est-ce que c'est démontrable? Est-ce que je peux démontrer que Dieu existe? Et saint Thomas affirme qu'il n'y a pas de démonstration a priori de l'existé de Dieu. Là, saint Thomas prophétiquement condamne Descartes. C'est assez curieux, dès la somme. Saint Thomas condamne Descartes. Descartes a oublié ça. Parce que Descartes veut donner une démonstration modo-géométrico de l'existence de Dieu. C'est-à-dire une démonstration a priori. Parce que la démonstration modo-géométrico se fait à partir de la définition. Je définis ce que c'est qu'un angle droit. Je définis ce qu'est un triangle. Je définis à partir de la définition. Je ne peux pas démontrer l'existence de Dieu à partir de la définition. Il n'y a pas de démonstration a priori de l'existence de Dieu. Or, la démonstration a priori, c'est la démonstration scientifique, mathématique, au sens très fort. Je ne peux pas démontrer scientifiquement, au sens absolu, que Dieu existe. Vous savez, au Moyen-Âge, avoir le culot de dire ça, c'était pas mal. Parce qu'il y en avait qui avaient dit que saint Anselme disait qu'on pouvait définir absolument l'existence de Dieu. Et saint Thomas dit non. Vous voyez, la rectitude de son intelligence, moi je trouve ça tellement beau. De ne pas, vous voyez, en ajouter, quoi. Pas du tout. Mais on peut démontrer l'existence de Dieu a posteriori. Or, la démonstration a posteriori, c'est à partir de l'effet. Je vois la fumée, le feu existe. Hein? Ça vous arrive de temps en temps. Vous voyez, quand il y a quelquefois en pleine, il fait très très beau. Et puis vous voyez de gros nuages qui, à l'horizon, un gros nuage par la terre. Et vous dites tout de suite, il y a un incendie, à partir du feu. Démonstration a posteriori. La démonstration a posteriori est une démonstration imparfaite, qui ne satisfait jamais totalement l'intelligence. C'est important de comprendre ça. Je peux donc, à partir des effets, affirmer qu'il existe Dieu. D'où article 3. Comment, à partir des effets, puis-je remonter jusqu'à l'existence de Dieu? Et saint Thomas donne les cinq voies. Les cinq voies qui sont un seul article. C'est donc en prenant cinq modalités des effets de Dieu que je remonte à la source. Vous voyez, autrement dit, dans une grande forêt, il peut y avoir cinq avenues qui conduisent à un rond-point. On a tous vu ça. Hein. C'est joli du reste. Hein. Je suis dans cette forêt énorme. Marécage. Alors, Saint-Thomas saisit dans un regard critique les cinq modalités, les cinq effets qui conduisent à l'existence de Dieu. Vous voyez, regard critique, il existe une démonstration a posteriori, analogique, synthétique de l'existence de Dieu. C'est bien une position critique du théologien qui présuppose une métaphysique, une théologie naturelle qui découvre qu'il existe nécessairement au milieu de cette forêt de toutes les créatures, il existe une source cachée. Il existe quelqu'un qui est à l'origine de tout. Voilà ce que dit le théologien. Alors, ce qui est extraordinairement astucieux de la part de saint Thomas, c'est d'avoir saisi ces cinq modalités. 1, 2, 3, 4, 5. Les cinq voies. Et saint Thomas les appelle les voies. Les cinq voies, les cinq orientations qui me permettent une démonstration a posteriori. Donc vous voyez, et on a pris ensuite les cinq voies de saint Thomas comme les cinq modalités de la démonstration métaphysique. Alors saint Thomas se place au plan théologique et au plan critique, présupposant la métaphysique. Et ce que nous devons redécouvrir, c'est la vraie découverte de l'existence de Dieu à partir de mon je suis. Puisque c'est tellement difficile de découvrir ce sommet. Si ce sommet est tellement difficile à découvrir, je vais me regarder la créature la plus parfaite. Je crois que c'est dans la créature la plus parfaite que la signature de Dieu est le plus visible. Ne regardez pas le petit caillou. Regardez un petit caillou. Oui, Dieu existe. Pour voir le feu, j'aime mieux regarder ce grand nuage du monde. Énorme du monde, et plus elle est noire, plus je dis le feu est profond. Alors je crois qu'aujourd'hui nous devons partir du je suis, puisque c'est l'expérience la plus parfaite de ce qui est. Vous n'avez pas d'expérience plus parfaite que vous-même, et ce n'est pas subjectif, puisque je touche l'être de la personne. Je partirai de l'être de la personne et je verrai dans l'être de la personne les cinq modalités qui toutes les cinq conduisent à le dépassement pour découvrir le je suis de l'existence de Dieu. Bon, je ne le fais pas avec vous, mais je dis qu'il existe ces cinq voies. À partir du je suis, à partir de la personne humaine, c'est à partir de la personne humaine qu'il faut monter. Je découvre l'exister d'un être premier. Et cet exister de l'être premier, je le compare à mon exister. Et je vois que l'exister d'un être premier, c'est un je suis absolu, premier. Et tous les autres je suis dépendent de lui. Je découvre la signature du je suis premier en moi. Ça, c'est très impressionnant. Mon je suis est totalement dépendant de l'être premier, du je suis premier, du je suis créateur. je-suis qui existe est radicalement dépendant de l'être premier. Et c'est dans cette lumière que je découvre la signature de l'être premier au plus intime de mon je-suis. Alors, vous voyez que là, je suis en présence de quelque chose de tout à fait nouveau. Ma personne, dans mon être autonome, puisque le je suis et mon autonomie est totalement dépendant de l'être premier. Une fois que je découvre cela, quelle est ma réponse ? La réponse peut être une attitude révolutionnaire à l'égard de Dieu. Je n'accepte pas d'être dépendant de l'être premier. Je suis libre. Je suis souverainement libre de dire oui ou non. Si je dis oui, j'adore. Quelle est la réaction la plus fondamentale de mon je suis à l'égard du je suis créateur? C'est d'adorer. Un premier amour radical. J'adore celui qui est source de mon être, source de mon âme, puisque mon autonomie provient de mon âme, et cette âme est créée par Dieu, et elle est directement créée par Dieu. Mon corps dépend de mes parents, c'est vrai, de tout un atavisme. Mon âme ne dépend pas de mes parents. Mon âme est créée directement par Dieu, mon âme spirituelle, et je peux reconnaître intellectuellement et amoureusement que je suis totalement dépendant de Dieu au plus intime de mon être, dépendant de celui qui est mon créateur. Et mon créateur n'a pu, étant donné ce qu'est l'être premier, ce qu'est le je suis premier, mon créateur n'a pu me créer que dans la lumière de sa sagesse, et que par amour pour moi, dans une pure gratuité, Dieu, en créant mon âme, n'a rien augmenté dans son être. Il m'a créé par pure gratuité, par pur amour, dans une liberté totale et dans une lumière contemplative. Je suis le fruit de la contemplation de Dieu sur lui-même. C'est merveilleux, ça. Le fruit de cet art divin et de cet art divin qui se contemple dans sa lumière et qui s'aime. Je suis le fruit d'un pur amour et d'une pure lumière. Et puisque Dieu m'a créé par pur amour et par pure lumière, je le remercie, je l'adore. L'acte d'adoration, c'est ma réponse la plus radicale à l'égard de l'acte créateur de Dieu. Voyez comment la philosophie doit s'achever à genoux dans l'adoration. J'adore celui qui est source de mon je suis. Alors, et sa signature, c'est merveilleux, c'est mon je suis. La signature de Dieu sur moi, c'est moi je suis. C'est pas quelque chose d'à côté. veuillez. Ça, c'est quelque chose à côté. Non, c'est toute l'œuvre. C'est la signature de Dieu. Dieu signe son œuvre dans toute son œuvre. C'est ça qui est merveilleux. Tellement on est le fruit d'un amour pur. Si on est le fruit d'un amour pur, tout nous-mêmes, dans notre « je suis », le plus radical, le plus profond qui soit, le « je suis » de l'intelligence qui désire la vérité, le « je suis » de ma capacité d'aimer, mon « je suis » dans ma prudence, mon « je suis » dans l'organisation de moi-même, c'est la signature de Dieu. Alors ça, cette découverte intellectuelle de ma théologie naturelle, de mon intelligence qui va jusqu'au bout, cette découverte, elle est formidable. Parce que tout moi-même, puisque je suis le fruit d'un acte d'amour, le fruit de l'acte créateur de Dieu, tout moi-même demande d'être offert à Dieu, de remonter vers Dieu, l'acte d'adoration. Dix minutes de silence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.